Bonjour à tous, c'est Mathéa et bienvenue sur Radio Campus Paris. Il est 17h30 ce samedi 1er juin.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Notre émission du jour porte sur les impacts économiques des Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre première invitée du jour est Marine Loy, spécialiste économique dans le domaine du sport. Elle va se pencher sur un sujet passionnant et controversé. Les Jeux Olympiques sont-ils bénéfiques économiquement pour le pays organisateur ?
Bonjour à tous, les Jeux Olympiques sont un événement mondial majeur, attirant l'attention de millions de personnes à travers le monde. Cependant, l'impact économique de cet événement sur le pays hôte reste un sujet de débat. Revenons sur quelques éditions passées pour mieux comprendre. Prenons d'abord les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le coût initialement prévu était de 2,4 milliards de livres sterling, mais les dépenses réelles ont atteint environ 9,3 milliards de livres. Malgré ce dépassement, les Jeux de Londres sont souvent cités comme un exemple de succès. En termes de retombées économiques, le Royaume-Uni a connu une augmentation de 9,9 milliards de livres de ses exportations de biens et de services et une hausse de 2,1 milliards de livres des investissements étrangers directs dans les années qui ont suivi. De plus, l'infrastructure urbaine, notamment à Stanford, a été revitalisée, entraînant une régénération de l'Est londonien. Contrastons cela avec les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Le coût officiel de l'événement s'élevait à environ 13,1 milliards de dollars, mais les bénéfices économiques attendus ne sont pas matérialisés de la même manière qu'à Londres. Le Brésil, déjà en proie à une récession économique, a dû faire face à des infrastructures sous-utilisées et à une grande dette publique. Des installations, comme le village olympique, sont aujourd'hui à l'abandon et la promesse de revitalisation urbaine et de développement économique n'a pas été retenue. Historiquement, les Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles ont été l'un des rares exemples de succès économique incontestable. Grâce à l'utilisation d'infrastructures déjà existantes et à une gestion rigoureuse des coûts, Los Angeles a dégagé un bénéfice de 250 millions de dollars. Pour finir, l'impact économique des Jeux Olympiques est variable. Si certains pays parviennent à transformer l'événement en un catalyseur de croissance et de développement, d'autres subissent des pertes financières et des infrastructures sous-utilisées.
En attendant l'arrivée des invités, on vous laisse sur un instant musique. Nous avons avec nous Garance et Liana.
Bonjour.
Bonjour.
Qui vont nous parler des aspects positifs. Et Noam et Joy.
Bonjour.
Bonjour.
Qui vont nous présenter les arguments contre. Commençons avec Garance. Quels sont selon vous les principaux bénéfices économiques des JO pour la France ?
Bonjour Mathéa. Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris vont clairement être bénéfiques pour notre économie. Regardez d'abord la création d'emplois. Les préparatifs et l'organisation des JO génèrent de nombreux emplois temporaires et permanents dans divers secteurs, comme la construction, l'hôtellerie, la sécurité et les services. De plus, les infrastructures construites ou rénovées par les JO, pour les JO, comme les stades et les transports, peuvent continuer à créer des emplois même après l'événement.
Merci Garance. Noam, que pensez-vous des arguments de Garance concernant la création d'emplois et les bénéfices pour l'économie ?
Alors certes, les arguments de Garance semblent attrayants. Mais il ne faut pas oublier les coûts élevés et les dépassements budgétaires. L'organisation des Jeux Olympiques est souvent associée à des coûts exorbitants, avec un risque élevé de dépassement budgétaire. Les précédents historiques montrent que de nombreux pays hôtes ont subi de pertes financières significatives. De plus, le financement des infrastructures et des événements peut accroître la dette publique, et les contribuables pourraient finir par payer pour les coûts non couverts par les recettes générées par les Jeux Olympiques.
Oyana, Noam soulève des points importants sur les coûts de la dette publique. Quel autre bénéfice économique voyez-vous, en particulier en ce qui concerne le tourisme ?
Merci Mathéa. Noam soulève des points importants, mais n'oublions pas la stimulation du tourisme. Les Jeux Olympiques attirent des millions de visiteurs, augmentant ainsi les recettes touristiques. De plus, l'exposition médiatique mondiale peut encourager un afflux de tourisme à long terme grâce à l'amélioration de l'image et de la notoriété de Paris ainsi que de la France. Par ailleurs, les investissements dans les infrastructures de transport et les installations sportives peuvent bénéficier aux résidents bien après les JO et les projets d'urbanisme durable peuvent améliorer la qualité de vie.
Joy, Oyana met en avant les avantages touristiques et l'amélioration des infrastructures. Pensez-vous que ces bénéfices sont suffisants pour compenser les risques financiers ?
Oui, Oyana, mais l'impact sur l'économie locale peut être limité. Les emplois créés souvent temporairement et peuvent disparaître après les Jeux. Les bénéfices économiques peuvent également être concentrés dans quelques secteurs ou régions ne profitant pas uniformément à l'ensemble du pays. Et n'oublions pas les risques d'infrastructures inutilisées. De nombreuses installations sportives peuvent devenir des éléphants blancs, coûteuses à entretenir et sous-utilisées après les Jeux. L'expérience des précédents hôtes montre que certaines infrastructures peuvent rester inutilisées ou sous-utilisées, ne générant pas de bénéfices économiques durables.
Merci à tous pour ces arguments bien développés. Garance et Yana ont souligné les avantages en termes d'emploi, de tourisme et d'infrastructures, tandis que Noam et Joy ont mis en avant les coûts élevés et les risques d'endettement et les incertitudes économiques post-événement. L'impact final des JO 2024 sur l'économie française dépendra en grande partie de la gestion des coûts, de l'utilisation post-événement des infrastructures et de la capacité à maximiser les bénéfices économiques à long terme. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Martin, le réalisateur. C'était Radio Campus Paris. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt pour de nouvelles émissions.
Bonjour à tous, c'est Jeanne et il est 17h40 et vous écoutez Paris Cannes sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, on va parler du Festival de Cannes qui s'est passé récemment et plus exactement de son ouverture sociale. Bonjour à nos invités, bonjour Louise.
Bonjour Jeanne.
Vous êtes spécialiste en cinéma, bonjour Teïla et Margot.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux expertes en sociologie et communication. Vous nous direz votre point de vue sur cette ouverture sociale du festival en débattant sur si oui ou non le festival est suffisamment ouvert socialement. Et bonjour Stacy.
Bonjour.
Vous êtes notre journaliste spécialiste en cinéma et sociologie.
Et oui, aujourd'hui je vais avoir la chance d'interviewer Louise.
Eh bien, dans ce cas, nous passons de ce pas à l'interview quotidienne.
Je vais donc vous poser quelques questions à propos du festival. D'abord, qu'avez-vous pensé de l'exploit réalisé en 2019 par le film Parasite ?
Je trouve cela impressionnant, d'autant plus qu'il s'agit d'un film réalisé à l'étranger. Cela met donc en lumière des réalisateurs et des acteurs du monde entier.
Pourriez-vous nous faire une brève présentation du film qui a gagné la Palme d'Or ?
Dans le film Anora, nous suivons l'histoire de celle-ci. Il s'agit d'une jeune stripteaseuse de Brooklyn. Celle-ci fait la rencontre d'un jeune homme d'une plus haute classe sociale. Ce choc des classes sociales fera l'objet du sujet principal du film.
Pensez-vous donc qu'un exploit pareil pourrait se reproduire cette année ?
Pour avoir la réponse, il faut attendre la sortie de ce film, Anora. Bien que je pense que ce soit peu probable, car ce genre d'événement ne se produise que très rarement.
Que pensez-vous du film Anora, du coup, qui a gagné la Palme d'Or ?
Je pense que le film a un thème très intéressant à explorer. Cela permet de montrer la dure réalité du monde pour les femmes, avec le choc des classes sociales. De plus, j'ai bien aimé le parallèle avec le conte de Cendrillon.
Et enfin, que pensez-vous de cette 77e édition du Festival de Cannes ?
Je trouve que cette nouvelle édition du festival se diversifie avec le temps. d'autant plus qu'elle permet l'inclusion de différentes classes sociales. On peut donc en conclure que le Festival de Cannes se bonifie avec le temps.
Merci Louise d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Paris Cannes sur Radio Campus Paris. Pour se replonger dans nos films préférés, je vous propose une petite pause musicale en écoutant I Ain't Worried du film Top Gun Maverick de One Republic. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe, I should be scared. Vous êtes toujours sur Paris Cannes sur Radio Campus Paris, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et on parle du Festival de Cannes et de son ouverture sociale. Alors pour vous, est-ce que le Festival de Cannes est suffisamment ouvert socialement? Teïla, vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi?
Oui, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'on voit de plus en plus de gens au festival, pas que des acteurs, des gens qui aiment les films ou qui en consomment, comme les influenceurs.
Vous trouvez donc ça normal que des influenceurs soient payés à y aller?
Oui, je trouve ça normal. Ça apporte plus de représentation culturelle, d'inclusion, d'égalité, d'innovation, de créativité aussi, parce qu'ils peuvent créer du contenu par rapport au festival.
D'accord, donc des influenceurs qui sont payés des millions d'euros, qui sont nourris et blanchis, prennent la place de certains acteurs en situation de handicap par exemple, comme les acteurs du film d'Artus, un petit truc en plus, qui n'avait aucune marque, qui ne voulait les habiller. Je trouve ça honteux. Comme l'a dit Artus, je pense que c'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt que d'habiller Artus, un simple humoriste et ses acteurs en situation de handicap.
Oui, je suis d'accord avec cet argument que vous donnez. Donc les influenceurs peuvent apporter de la visibilité à ce genre d'événement.
Donc si, comme vous le dites, le festival est assez ouvert, pourquoi nous y retrouvons que des personnes connues et avec une certaine puissance sociale? Pourquoi nous, des personnes passionnées mais inconnues, n'y avons pas accès? Donc, Léna Situation ou encore Juste Zoé ou Poupette Kenza sont les seules à avoir le droit d'être mélangées à Emma Stone ou encore George Lucas. Je trouve ça vraiment bien triste.
Oui, en effet, vu sous cet angle, ça paraît étrange. Mais ces personnes-là peuvent aussi apporter de la visibilité face à leur contenu. Et on oublie aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont invitées, pas que des créateurs de contenu, des acteurs et autres. Il y a aussi d'autres personnes, mais qui ne sont pas intéressantes pour le public, donc qui ne sont pas photographiées ni mises en lumière par les médias.
D'accord. Donc, Jeanne, pourriez-vous nous rappeler la question?
Pour vous, est-ce que le Festival de Cannes est suffisamment ouvert socialement?
Donc, pour y répondre, moi, je pense que ce n'est qu'une apparence. Le Festival de Cannes ne s'ouvre pas réellement socialement, car les personnes invitées sont seulement des personnes dotées d'un fort capital économique qui se donnent comme apparence, une apparence de quelqu'un de classe moyenne. Donc non, le Festival de Cannes ne s'ouvre pas socialement, tout est calculé.
Merci Margot et Teïla d'avoir été avec nous sur Paris Cannes sur Radio Campus Paris, et merci à notre réalisatrice Clara, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle émission sur Paris Cannes. We'll be right back.
Bonjour à tous, bienvenue sur la radio Campus Paris, la radio qui met tout le monde d'accord.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Nous sommes le 30 mai 2024 et il est 17h50. Nous sommes ici réunis afin de parler d'un sujet très important, le sport, dans toutes ses formes. Ici, nous nous intéresserons à ses bienfaits. Tout le monde sait que le sport est important et qu'il est la clé d'une longévité et d'une vie saine. Nous sommes ici accompagnés de Marie.
Bonjour.
Et de Clara.
Bonjour.
Deux invités spécialisés dans le sport. Nous discuterons de cet art qui est présent depuis le début de nos civilisations. Clara, pour vous, est-ce que le sport contribue au bien-être ?
Oui. En effet, on parle de nombreux bienfaits du sport. Le sport est nécessaire pour avoir le corps et l'esprit sains et en bonne santé. Une activité physique se pratique au minimum 30 minutes par jour. De nombreux sports extrascolaires sont praticables par tous. Il existe des sports individuels tels que le karaté, la gymnastique, l'athlétisme, le tennis, la boxe ou encore la natation. Mais il existe également des sports collectifs comme le foot, le basket ou le rugby. Néanmoins, si vous êtes un adepte du sport à la maison, de nombreux coachs sportifs proposent des cours de sport gratuits sur différentes plateformes comme YouTube. Cette alternative permet aux humains de pratiquer du sport sans limite et quand ils le souhaitent.
Est-ce que le sport a une importance sur la santé ou le physique ?
Afin d'entretenir un équilibre physique stable, il est fortement conseillé de pratiquer une activité sportive régulièrement.
En effet, le sport est un facteur majeur pour le développement des muscles. Celui-ci apporte aussi un confort physique qui est nécessaire pour la confiance en soi.
Et le sport est indispensable pour lutter contre de nombreuses maladies. Grâce au sport, les pathologies chroniques peuvent être prévenues. Et il est fortement recommandé d'avoir cette pratique sportive afin de contribuer au traitement d'un très grand nombre de maladies mortelles telles que le cancer, le diabète ou l'obésité. Et elle contribue également au traitement des maladies neurodégénératives et psychiatriques. Généralement, il est recommandé de pratiquer cette activité régulièrement, car cela va permettre une meilleure oxygénation des tissus, une préservation de l'endothélium. Les endothéliums sont des cellules qui tapissent l'intérieur des parois du cœur et des vaisseaux sanguins. Et cela permet également une baisse de la viscosité du sang et un renforcement à la fois du système immunitaire, des os, des articulations, des muscles et du système cardiovasculaire.
Très intéressant. Mais en cas de blessure, est-ce qu'un sportif peut tout de même pratiquer une activité sportive ?
Alors, dans le cas d'une blessure, il est conseillé d'aller voir un professionnel de santé afin de s'assurer de la gravité de la blessure. Cependant, dans le cas où la blessure n'est pas grave, la pratique sportive est tout à fait possible. Il faut savoir faire attention à sa blessure, c'est-à-dire qu'il faut adapter ses entraînements, notamment en limitant la sursollicitation de l'endroit où il y a la blessure. Il faut privilégier un entraînement focalisé sur une partie du corps en bonne santé afin d'éviter d'aggraver la blessure. Je ne recommande pas forcément l'arrêt total du sport puisque le muscle risque de faiblir et après cela, la rééducation prendra plus de temps que prévu.
Le sport a de nombreux bienfaits mentaux qui sont essentiels pour l'équilibre d'une personne. Le sport favorise l'augmentation de l'énergie et de la vitalité, car l'activité physique régulière permet d'augmenter l'énergie et de réduire la fatigue. Le métabolisme va donc être stimulé, ce qui va permettre un apport en énergie plus conséquent. L'activité sportive améliore également la santé mentale, puisque l'exercice libère des endorphines, aussi appelées hormones du bonheur. Les endorphines sont des molécules libérées par le cerveau qui vont agir comme anti-stress, qui réduisent l'anxiété et la dépression et qui favorisent une meilleure concentration et une qualité de sommeil améliorée. Cette hormone est considérée comme une morphine naturelle produite par l'organisme.
Existe-t-il d'autres hormones libérées lors d'une pratique sportive ?
Oui, en effet, il existe une autre hormone appelée la dopamine.
La dopamine est une petite molécule produite par certains neurones. Ceux-ci vont donc l'utiliser comme un messager chimique pour transmettre des informations à différents circuits cérébraux. C'est ce que l'on appelle un neurotransmetteur.
Cette hormone joue un rôle majeur sur l'attention, le sommeil, la mémoire, l'apprentissage, le plaisir, la motivation, la productivité et la planification.
Et l'activité stimule-t-elle l'estime de soi ?
Bien sûr, Elle peut stimuler l'estime de soi de différentes manières. Elle contribue à la réalisation de défis personnels, ce qui accentue la confiance en soi.
Aussi, la libération des hormones, que nous avons citées tout à l'heure, procure une sensation de bien-être.
Est-ce que l'on peut dire que le sport améliore la qualité de vie ?
Bien sûr, puisque la qualité de vie globale de l'activité physique a un impact très positif.
Et elle favorise une plus large indépendance en cas de vieillissement, une meilleure mobilité, ainsi qu'une amélioration importante de la capacité à participer aux activités quotidiennes de manière agréable.
Avant de continuer ce podcast et de parler des Jeux Olympiques de 2024, je vous propose d'écouter une musique qui a été très appréciée par les sportifs de 2016.
Nous venons d'écouter This One For You de David Guetta et Zara Larsson, une célèbre musique de 2016 qui a fait 326 millions de vues. Eh bien, cet aparté fait, nous allons poursuivre ce podcast avec une question concernant les sportifs. Est-ce que la pratique sportive peut tout de même être agréable pour les sportifs de haut niveau, comme les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ?
Je pense qu'il est déjà nécessaire de rappeler ce que c'est un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau est un sportif pratiquant une activité physique et sportive de compétition. Ils sont généralement les représentants des nations lors de nombreux championnats, qu'ils soient mondiaux ou internationaux.
Il est vrai que ces athlètes font une quantité importante de sport. On compte en moyenne des entraînements de 6 heures par jour et de 6 jours par semaine. On constate alors que le taux de dopamine et d'endorphine est très élevé. Le bien-être mental peut être préservé, cependant le stress des compétitions ainsi que la pression du public peut être néfaste pour la santé mentale de ces sportifs.
Mais en termes de forme physique, comment les athlètes vivent cette intense pratique sportive ?
Alors, sur les athlètes de haut niveau, on peut voir un développement musculaire important, mais il faut qu'ils pratiquent différents sports que le leur, comme la musculation, le running, les jeux d'adresse, afin de préserver un poids et une condition physique stable.
Par contre, il faut savoir faire attention à cette pratique intense, puisqu'un entraînement excessif et mal dosé peut causer un épuisement et des problèmes musculo-squelettiques et endocriniens.
Quelle est donc la fin de carrière chez les sportifs de haut niveau ?
Généralement, une carrière sportive de haut niveau dure plus de 10 ans. Les athlètes prennent généralement leur retraite vers l'âge de 34 ans, mais cela peut être même plus jeune.
Ah oui, c'est très tôt quand même.
Oui, bien sûr. C'est pour cela qu'il vaut mieux prévoir une solution de secours pour l'après de leur carrière.
C'est pour cela que nous souhaitons un très bon courage à nos représentants français des JO 2024. Merci à nos invités Clara et Marie et à notre réalisateur Mathéo. Merci pour cette discussion très enrichissante qui nous a permis d'en savoir un peu plus. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions sur notre site internet.
Bon.
Bonjour à tous, il est 18h et nous sommes sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous parlerons du film sorti il y a quasiment un an et devenu le quatrième film en IMAX le plus rentable. Il s'agit bien évidemment du film Oppenheimer, sorti pour la première fois le 19 juillet 2023. Générique.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Ce film est une reproduction et une réécriture historique de la création de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale autour du personnage du scientifique Oppenheimer. En l'occasion de ce film, nous recevrons plusieurs invités, dont tout d'abord Loïc, qui nous racontera le contexte historique et la biographie d'Oppenheimer. Ensuite, nous recevons Sodi, qui nous expliquera le déroulé du film. En troisième, nous recevons Mathéon, qui décrira les biographies et le casting. Et pour finir, nous recevons Louis, qui nous parlera de la remise des Oscars à la suite du film et les débats autour de la cérémonie.
Il s'agit d'une urgence nationale.
Détonateur amorcé.
Bonjour, je vais donc vous parler de l'histoire du père de la bombe nucléaire. Julius Robert Oppenheimer est né le 22 avril 1904 à New York et est mort le 18 février 1967 dans le New Jersey. Diplômé à Harvard aux États-Unis et à Göttingen en Allemagne, il étudie les écrits des plus grands scientifiques européens grâce à sa maîtrise des langues. Sous la demande du général Leslie Richard Groves, il prend part au projet Manhattan, aussi appelé Development of Substitute Materials. Cependant, ce projet fut lancé bien avant, en août 1939, par Theodore Roosevelt. D'origine modeste, il assemble le Canada et le Royaume-Uni, réunissant 130 000 personnes et un budget de 2 milliards de dollars en 1945. Cet argent fut destiné à la recherche du nucléaire, mais principalement pour la création de centrales. L'essai Trinity marque le premier succès de l'arme nucléaire au Nouveau-Mexique et le gouvernement s'empresse de l'utiliser au Japon afin d'obtenir leur capitulation. La bombe d'uranium Little Boy frappe Hiroshima le 6 août 1945 et Fat Man, la bombe de plutonium, frappe Nagasaki le 9 août. En tout, il y aura 200 000 victimes. À l'issue du conflit, J.R. Oppenheimer est élu président de la Commission de l'énergie atomique des USA, mais voit sa position révoquée en 1954 lors de la Peur Rouge. Il est finalement réhabilité en 1963. Bien qu'il ait participé à la création de cette arme, Oppenheimer souhaitait qu'elle soit utilisée à des fins de dissuasion et non pas en tant qu'outil de massacre.
Merci Loïc. Oui, la vraie histoire de la création de la bombe permet de créer l'histoire du film Oppenheimer qui va nous être racontée par Sodi. Sodi, je vous laisse la parole. Bonjour Sodi.
Bonjour. Le film Oppenheimer de Christopher Nolan relate la vie de Julius Robert Oppenheimer, le physicien en charge du projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale, visant à développer la première bombe atomique. L'histoire débute avec les études en physique théorique d'Oppenheimer, puis son recrutement pour diriger ce projet top secret à Los Alamos. Le film suit les défis techniques, les tensions avec les militaires, notamment le général Leslie Groves, et les dilemmes éthiques auxquels sont confrontés Oppenheimer et son équipe. Après le succès du test Trinity, la bombe est larguée sur Hiroshima et Nagasaki, changeant à jamais le cours de l'histoire. Le film se termine en explorant les conséquences des bombardements, la culpabilité d'Oppenheimer et sa persécution pendant l'ère McCarthyste. Cependant, le film prend quelques libertés artistiques. Les relations entre les personnages sont dramatisées, accentuant les conflits entre Oppenheimer et Groves. Les dilemmes moraux d'Oppenheimer sont amplifiés pour intensifier le drame, bien que dans la réalité, ses opinions sur l'utilisation de la bombe aient évolué au fil du temps. Les aspects techniques du projet Manhattan sont simplifiés pour rendre l'histoire plus accessible. De plus, bien que le film présente Oppenheimer comme une victime emblématique de la chasse aux sorcières McCarthyste, son procès de sécurité en 1954 était plus complexe, impliquant ses associations passées et ses désaccords politiques avec certains membres du gouvernement. En somme, Oppenheimer est une dramatisation poignante et captivante qui, malgré quelques libertés artistiques, reste fidèle aux grandes lignes de la vie et les dilemmes moraux de Julius Robert Oppenheimer, offrant une réflexion sur les conséquences de la science et des choix humains en temps de guerre.
Merci Sodi. Ce film est composé d'un grand casting dont je laisse Mathéo nous en parler. Mathéo, racontez-nous les biographies et le casting. Bonjour Mathéo.
Alors bonjour. Le personnage principal est interprété par le célèbre acteur Cillian Murphy, né le 25 mai 1976 à Douglas, dans le comté de Cork, en Irlande. Il a débuté sa carrière dans la production théâtrale, avant de se faire connaître dans les films indépendants, comme Disco Pig en 2001. Murphy a ensuite joué dans des films à succès, tels que 28 jours plus tard en 2002 et Le vent se lève en 2006. Il est surtout célèbre pour son rôle de Thomas Shelby dans la série Peaky Blinders. En parallèle, il a collaboré plusieurs fois avec le réalisateur Christopher Nolan, notamment dans Batman Begins en 2005, Inception en 2010 et Dunkirk en 2017. Murphy est apprécié pour son intensité et sa capacité à incarner des personnages complexes. En dehors de sa carrière d'acteur, il mène une vie discrète avec sa femme et ses enfants. Passionné de musique, il a également été membre d'un groupe de rock dans sa jeunesse. Acteur polyvalent, Cillian Murphy continue de marquer le cinéma contemporain par ses performances remarquables. Il est également le célèbre interprète de Julius Robert Oppenheimer dans le film Oppenheimer, qui a eu un franc succès. Il a également remporté le Golden Globe, un Oscar et un BAFTA Award. Christopher Nolan, sans qui Cillian Murphy n'aurait pas remporté tous ses titres, est le producteur de ce film. Il naît le 30 juillet 1970 et réalise des films dès son plus jeune âge. Nolan a étudié la littérature anglaise dans l'University College de Londres, où il a rencontré sa future épouse et collaboratrice Emma Thomas. Son premier long métrage, Following, en 1998, a attiré l'attention et a conduit à la création de Memento. Il a également signé des œuvres originales comme Inception en 2010, Interstellar en 2014 et Dunkirk en 2017. En 2020, il a sorti Tenet, un thriller de science-fiction, explorant le voyage dans le temps. Plusieurs acteurs sont connus dans le film Oppenheimer, tels que Robert Downey Jr. dans le rôle de Lewis Strauss. Membre influent de la commission de l'énergie atomique et un adversaire central de Julius Robert Oppenheimer. Le film explore leur conflit, notamment la révocation de l'habilitation de sécurité d'Oppenheimer, orchestrée par Strauss en 1954, et Matt Damon dans le rôle de Leslie Groves Jr., qui était un général de l'armée des États-Unis qui a dirigé le projet Manhattan, supervisant la construction des premières bombes atomiques. Sa collaboration avec Julius Robert Oppenheimer, le scientifique en chef du projet, est un élément clé du film.
Merci Mathéo. Cillian Murphy et les autres acteurs, ou bien même le réalisateur Christopher Nolan, ont reçu à la suite de ce film de nombreux Oscars, dont je laisse Louis nous raconter la remise. Racontez-nous la remise et les débats. Bonjour Louis.
Bonjour. Donc le dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer, a été nommé pour 11 Oscars et en a reçu 7, dont les plus prestigieux comme celui de la meilleure réalisation et du meilleur acteur pour Cillian Murphy. C'est une sorte de consécration pour Nolan, qui avait déjà été nommé pour l'Oscar de la meilleure réalisation avec ses précédents films, Dunkirk et Inception. On peut dire qu'Oppenheimer a presque tout raflé cette année, ne laissant que quelques statuettes à Poor Things de Yorgos Lanthimos. Oppenheimer était déjà placé en grand favori, mais maintenant on peut dire que tous les films de Nolan sont considérés d'emblée comme favoris pour être nommés meilleure réalisation. Alors cette réussite met fin à une malédiction vieille de 20 ans, puisqu'aucun blockbuster n'avait remporté l'Oscar du meilleur film depuis Le Seigneur des Anneaux, Le Retour d'un Roi en 2003. Cette 96e cérémonie n'est pas une surprise, puisque le long métrage avait déjà remporté 5 Golden Globes, 7 BAFTAs et 5 SAG Awards. On peut s'interroger sur le mérite de ce film, qui a tout de même été énormément récompensé. Puisque bien apprécié du public, certains émettent des avis beaucoup plus tranchés, comme le New Yorker, qui qualifie Oppenheimer de film destiné à la chaîne Histoire avec un joli montage, mais qui passe à côté de la complexité de son personnage. Ou encore The Verge, qui parle d'un assortiment chaotique de vignettes dû à un réalisateur plus concentré par la performance que par le fond. Puisqu'en effet, certaines scènes présentent la bombe nucléaire comme une grande victoire américaine, sans insister sur les répercussions dramatiques, comme le souligne notamment The Guardian. Malgré ces critiques, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque le nouveau film de Christopher Nolan est un véritable succès, avec presque 1 milliard de box-office et plus de 4,5 millions d'entrées rien qu'en France. Évidemment, ce n'est pas la réussite financière qui explique cette réception épatante aux Oscars. C'est plus l'œuvre de Nolan en général qui est récompensée. Puisque notamment The Dark Knight n'avait pas reçu le prix de la meilleure réalisation, ce qui avait suscité beaucoup de débats. Avec Oppenheimer et justement l'Oscar de la meilleure réalisation, c'est tout le travail de Nolan qui est récompensé. Cela nous invite à réfléchir sur le réel objectif de cette cérémonie. Récompenser un film ou le travail d'un réalisateur, et finalement pourquoi pas les deux.
Merci Louis. Merci aux experts et à Hugo le réalisateur pour nous avoir permis de réaliser cette chronique. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Vous êtes sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, il est 12h55 et vous écoutez l'Odyssée des Savoirs sur Radio Campus Paris. Nous parlerons du thème de cette émission après le générique.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Cette semaine, il sera question d'aborder la sécurité dans l'utilisation du nucléaire civil. Pour ce faire, nous parlerons aujourd'hui de l'accident nucléaire le plus célèbre du siècle dernier, ainsi que de sa gestion. Je parle bien évidemment de la tragédie de Tchernobyl. Nous accueillons donc deux invités d'exception, Luc Genet, scientifique spécialiste en ingénierie nucléaire, et Anne Vedel, historienne spécialiste du XXe siècle.
Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour Luc.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez donc répondre à nos questions avant d'enchaîner sur une chronique présentée par Marie Vedel. Je cède maintenant la place à nos invités et à notre journaliste Inès Perry.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Merci. Monsieur Genet, lorsque nous parlons du nucléaire civil, on imagine toutes les grandes cheminées des centrales nucléaires évacuant dans l'atmosphère des fumées radioactives. Mais qu'en est-il vraiment et comment fonctionne un réacteur nucléaire ?
Alors, il faut d'abord savoir que les fumées sortant des dites cheminées ne sont pas que de la vapeur d'eau. Aucune fumée radioactive n'est émise dans l'air par ces cheminées, ni fumée, ni gaz à effet de serre. Le principe de fonctionnement d'un réacteur est assez simple. On utilise de l'uranium enrichi, tel que l'uranium-235. Ce dernier est un élément instable qui, lorsqu'un neutron le heurte, se scinde en deux autres atomes, plus stables, libérant au passage une quantité phénoménale d'énergie, ainsi que deux neutrons, permettant ainsi la pérennisation de la réaction. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. Afin de refroidir le cœur et d'éviter la fusion nucléaire, le réacteur est constamment refroidi avec de l'eau. Lorsqu'un atome se divise, l'eau est immédiatement changée en vapeur, qui fait tourner une turbine, produisant ainsi de l'énergie.
Qu'en est-il des déchets nucléaires ? On parle quand même de 1 700 000 mètres cubes de déchets nucléaires.
Il faut savoir que la grande majorité des déchets nucléaires sont recyclables. Seulement 4% d'entre eux sont vraiment dangereux. Ce sont les déchets ultimes. Ces derniers sont vitrifiés, puis coulés dans des fûts en inox et placés sous une épaisse dalle en béton en attendant d'être stockés. Concernant ces tonnes de déchets, ce sont majoritairement des gants, des vêtements et du béton ou tout ce qui a été utilisé dans le périmètre d'une centrale nucléaire, même dans le cas où le matériel ne présente aucune trace de radioactivité. Seuls 0,25% de ces déchets sont dangereux, et eux aussi sont vitrifiés. Ils sont stockés à plusieurs centaines de mètres, sous terre, là où personne ne circule.
Et concernant les catastrophes nucléaires comme Tchernobyl ou encore Fukushima, le nucléaire s'avère être dangereux.
L'échelle INES, ou échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, est une échelle classant les événements nucléaires en fonction du risque radiologique. Elle comporte 7 niveaux. Pour les niveaux 1 à 3, on parle d'incidents nucléaires ne comportant très peu de risques pour la population et pour l'environnement. Pour les niveaux 4 à 7, on parle de là des accidents nucléaires allant d'un rejet mineur de matière radioactive sur une petite zone à un rejet majeur sur une zone étendue. Les deux catastrophes nucléaires de Tchernobyl et Fukushima sont du niveau 7, soit le plus haut niveau de danger pour une catastrophe nucléaire. Ce niveau 7 n'a été attribué que pour ces deux catastrophes. Il faut savoir que tous les ans, ce sont des centaines d'événements nucléaires qui sont répertoriés, mais la très grande majorité d'entre elles sont classées de niveau 0 à niveau 1. En France, les deux plus grands accidents nucléaires sont du niveau 4 et ont lieu dans la même centrale nucléaire.
Pouvez-vous nous rappeler où et que s'est-il produit ?
Très bien. Alors, pour la faire simple, c'est à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-les-Eaux, près de Nantes. 50 kg d'uranium seraient entrés en fusion en 1969, mais la contamination aurait été limitée qu'au site. Le deuxième accident, quant à lui, a eu lieu en 1980, où 20 kg d'uranium sont entrés en fusion. Et 0,3 g ont été déversés dans la Loire.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, cet accident a fait scandale à l'époque.
Oui, mais rassurez-vous, il a été révélé que l'impact sanitaire a été nul.
C'est donc le plus grave accident nucléaire que la France ait connu.
Exactement.
Très bien, merci professeur. Mais dans le cas d'un accident comme Tchernobyl, comment faisons-nous pour stopper la catastrophe ?
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
C'est une très bonne question et c'est ce que vous allez nous expliquer, Anne.
Tout à fait. Alors pour rappel, le 26 avril 1986, à 1h23 et 45 secondes, le réacteur RBMK, numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, explose alors que le personnel de la centrale effectuait un test de sécurité, provoquant ainsi une catastrophe écologique, humaine et économique sans précédent.
Mais qui sont les responsables de cet événement ?
Eh bien, le principal responsable de cette explosion est le directeur de la centrale Dyatlov qui, alors que ce fameux test de sécurité aurait dû être annulé pour justement des raisons de sécurité, refuse de l'annuler, menace son équipe, abuse de son autorité et l'oblige à poursuivre le processus provoquant la fusion du cœur du réacteur. Intervient alors un nouveau facteur, la défaillance technologique du réacteur. En effet, il existe dans toutes les centrales nucléaires un bouton d'arrêt d'urgence appelé AZ5 en URSS. Enclenché, il stoppe la fusion. Or, pour des questions de diminution budgétaire, ce bouton était défaillant. D'ailleurs, le Kremlin le savait, mais l'a dissimulé lorsque les scientifiques ont révélé le problème. Aucun personnel dans les centrales n'était informé de cet énorme défaut de conception. Ainsi, une bombe gigantesque est née.
Donc, le bouton d'arrêt AZ5 s'est révélé être en réalité un détonateur.
Exactement.
Merci à Luc et Anne d'avoir répondu clairement à nos interrogations. À présent, je vous propose une petite interlude musicale sur le titre phare de Sia et de David Guetta, Flames. Je donne la parole à Anne qui va nous présenter sa chronique sur la gestion de la catastrophe de Tchernobyl par l'URSS ainsi que ses conséquences.
Tout d'abord, j'aimerais mettre en lumière la gestion chaotique de l'URSS au début de l'accident. En effet, la direction de la centrale a menti, faisant croire à un simple incendie et à l'explosion d'une citerne. Puis, pour éviter la propagation de l'information, aucune évacuation n'a été ordonnée, notamment la ville de Prépiat, située à seulement 3 km de la centrale, malgré la présence du nuage radioactif. Les premiers secours ont également été envoyés sur place en ignorant tout sur la gravité de l'accident. Résultat, quasiment tous les pompiers sont décédés de brûlures atroces dans les jours qui ont suivi. La prise en charge médicale des personnes irradiées n'a au départ pas été à la hauteur. Il n'y avait aucun isolement et le personnel n'avait pas de protection. De plus, le Kremlin a voulu étouffer le scandale à toutes les échelles. Mais heureusement, le scientifique Legasov a évoqué une explosion du réacteur et non un simple incendie. Ainsi, Gorbatchev, malgré la réticence du comité central, a décidé d'évaluer les conséquences de l'incident. Grâce au courage de Legasov et de Tcherbina, convaincus de la gravité du drame en se rendant sur place, le Kremlin a réagi et tout le pays s'est mobilisé pour éviter une catastrophe encore plus grande. Si la situation dégénérait, c'est la moitié de l'Europe qui devenait inhabitable et l'autre moitié totalement détruite. C'est alors engagée une course contre la montre pour l'URSS avec la mobilisation forcée de nombreuses personnes et en premier lieu de l'armée qui ont pris des risques sacrifiant parfois leur vie pour éviter le pire et sauver leurs citoyens. Le bilan de cette catastrophe a malgré tout été terrible. Écologiquement, la zone d'exclusion est la plus radioactive de la planète. Prépiat est aujourd'hui une ville fantôme. Humainement, le nombre officiel de victimes reconnues par l'URSS est toujours inchangé et s'élève à seulement 31 personnes. Mais en réalité, les estimations varient entre 4000 et 93 000 morts. Techniquement, il a fallu changer le sarcophage initial qui protège le cœur et l'actuel. Censé durer 100 ans, il a coûté 2 milliards de dollars. Économiquement, il est très difficile d'évaluer le coût pour l'URSS, mais il oscille entre 300 et 700 milliards de dollars. Le coût a été tel que l'économie soviétique ne s'en est jamais remise. Nous pouvons donc dire que Tchernobyl est le symbole d'une technologie triomphante et orgueilleuse qui s'est tragiquement retournée contre son créateur. Mais la vraie question est, est-elle la seule ? A-t-on vraiment pris conscience des risques alors que depuis s'est produit au Japon le drame de la centrale de Fukushima ?
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
C'est effectivement une très bonne question à laquelle nous répondrons demain. Merci pour votre écoute. C'était l'Odyssée des Savoirs sur Radio Campus Paris. Également un très grand merci à nos invités d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons par ailleurs une très bonne fin de soirée.
Merci à vous, bonne journée.
Merci, au revoir. We'll be right back.